Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
Allô, oui? Bonjour, tu vas bien? Ouais. Oh non, rien en vue en ce moment. Mais tu sais, je suis pas fâchée du tout, hein, parce que les chiens écrasés, ras-le-bol. Non, je sais pas encore très bien ce que je vais faire. Ah oui, si, mais j'avais un truc. Kiko qui m'a proposé d'être attaché de presse sur son prochain film. Mais je sais pas encore, ça me barre un peu. Ah ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est comme sujet? Oh, tu crois que ça intéresse le public, toi? Bon, et Bon, d'accord, ok, je m'y mets. Mais je commence tout de suite, ok?
Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au Kiko Book. Le Kiko Book, soit le livre de Gérard Kikoïn, qui revient sur l'ensemble de sa carrière, mais bien évidemment, surtout, sur ses films d'amour, voilà, mais pas que, c'est-à-dire que le livre, après, non pas une préface, mais une préface dont nous allons parler avec Gérard dans les minutes qui viennent, le livre, qui est un magnifique livre, un très bel objet, paru aux éditions de l'Œil, nous présente toute une succession de photogrammes, de photos, de découpages de films, et aussi plein de témoignages, et également, et c'est ça le plus important, l'histoire de Gérard Kikoïn. Vous saurez tout de comment il a monté sa boîte de prod, comment il a eu ses premières cartes professionnelles, les tournages, mais aussi comment il préparait le découpage d'un film, comment il travaillait au décor, à la mise en scène. Voilà, vous allez tout savoir sur Gérard Kikoïn dans un livre qui est aussi intéressant à lire qu'à regarder. Un ouvrage d'ores et déjà, on peut le dire, hein, un ouvrage référence qui vient s'ajouter au travail qui avait été fait par Christophe Beer, déjà sur le cinéma pornographique, et qui, je l'espère, sera complété très bientôt du travail fait sur Brigitte Lahaye, les films de culte, hein, dont on avait reçu l'auteur dans l'émission il y a quelque temps durant cette saison. Alors aujourd'hui, Gérard revient à notre micro. On l'avait reçu au moment de la campagne de crowdfunding parce qu'il avait eu besoin de sous pour pouvoir boucler l'édition de cet ouvrage. Et donc, on va commencer par parler du Kiko Book avec Gérard et revenir justement sur cette campagne de crowdfunding. Donc tout de suite, Gérard Kikoïn au micro de Culture Prohibée.
À 10 jours de la date fatale, finale, il manquait près de plus de 40%, je crois, de tu vois, au lieu d'être à 15 000, je vais être à 9 000 ou un truc comme ça, tu vois, à 15 jours, après près de 25 jours, tu vois, il y avait 40 jours en tout. Mmh. Et puis, dans les derniers jours, tout est venu. Puisque je suis monté jusqu'à 16 000, donc tout est venu, voilà. Tout est venu, et ceci dit, j'ai bossé, j'ai vraiment, c'est un travail, hein, c'est un truc... mais comme ce Kiko Book, ça faisait quand même déjà depuis 2 ans que j'étais dessus, quand même, puisque j'avais fait une maquette avec mon épouse qui est graphiste, enfin, qui est directrice de création et graphiste, donc on avait vraiment bossé, vraiment j'étais vraiment, j'en voulais quoi, j'avais et j'ai relancé tous les jours et j'ai envoyé des messages en privé je sais pas si tu en as eu, mais à tous les gens vraiment que je connaissais et que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui ont vu que sur Ulule il y avait, il se passait quelque chose avec le Kiku Book. Et donc voilà. Et donc ça a été un grand bonheur parce que il y a près d'un an maintenant, j'ai démarré il y a un an pratiquement. Il y a un an, je crois, j'ai démarré au mois de février, ouais. Et il y a un an, j'étais au milieu du parcours, du chemin, au milieu du guet.
Et d'ailleurs, est-ce que cet engouement pour toi, ça traduit pas aussi peut-être, une certaine nostalgie vis-à-vis d'une certaine époque bénie du porno, quoi, de ce que tu appelles les films d'amour.
Non, j'ai pas de nostalgie parce que je vais te dire une chose, je n'ai aucune nostalgie de cette époque-là parce que je suis comme tout homme. J'ai eu plusieurs vies. On n'a pas qu'une vie. On a plusieurs vies sentimentales. Moi, j'ai eu une vie familiale, étant jeune, et j'en parle dans le bouquin, puisque c'est mes jeunes années, et mon père étant dans le cinéma, le sillon, il avait tracé le sillon, je pourrais te l'expliquer. Quand j'allais au cinéma, j'avais 9-10 ans avec mon grand frère. Comme mon père était dans le doublage, il avait RKO et Disney, ce qui était gros truc. Je voyais son nom, Léon et Max, donc Léon et Max qui collaient une version française. Pour moi, il avait fait le film. Je voyais mon nom au Gaumont Palace. D'au moins 2-3 fois par mois, j'allais au cinéma très souvent. J'allais au cinéma au moins 10 fois par mois. 8-10 fois par mois, je voyais mon nom au moins 1-2-3 fois par mois sur les écrans. Donc quelque part, après, c'est mieux pour moi. C'était tracé. J'étais fait pour ce métier-là. Je ne pouvais pas faire autre chose. Et si tu veux... Pourquoi j'ai fait le Kiku Book? Parce qu'il s'est trouvé que j'ai eu l'iconographie nécessaire pour le faire. Parce que je voulais pas faire un bouquin écrit 250 pages d'écriture, ça aurait fait chier le monde. Et puis comme disait Napoléon, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a 3 ans à peu près, de revoir mon premier assistant de l'époque. Et d'ailleurs, de l'époque, et puis qui m'a suivi sur mes films traditionnels, mais les films de Canon que j'ai pu faire, mais qui a démarré avec moi comme second sur les films d'amour, et qui lui avait 300 ou 350 diapositives. Moi, j'en avais des photos papier, mais j'en avais une centaine, donc ça ne pouvait pas faire de... Mais avec ces 400 photos réunies, je me suis dit, bon, là, on va pouvoir le faire. Là, on va pouvoir le faire et montrer, avec ce fond iconographique unique, hein, parce que je suis le seul à l'avoir, ce fond iconographique. On découvre le backstage de mes tournages, l'équipe technique, les comédiens, les hardeurs, dans toutes les situations, l'attente entre deux plans, les répétitions. Enfin, c'est le secret de fabrication des scènes hard. J'entendais autour de moi depuis des années. Je te parle pas. Moi, j'ai tourné des films d'amour. Mon premier film d'amour, c'est 77, Partie fine, avec Brigitte Lahaie, que je vois demain d'ailleurs sur AMC, Brigitte Lahaie, Alban, Gâteau et ainsi de suite. 77 à 82, j'en ai fait pendant 5 ans, hein, mais ils ont cartonné d'abord, ils ont cartonné parce que ces films-là ont fait près de 4 millions d'entrées sur la France, l'ensemble des films, des 22 films que j'ai fait, c'est quand même beaucoup, qui est énorme. Et si tu veux, moi ces films-là, je me suis investi. Pourquoi j'appelle ça des films d'amour? Parce que je me suis investi vraiment énormément. J'avais une équipe technique pratiquement à 80% toujours la même pendant des années, où il y avait de l'amour et où on avait un amour, entre autres, pour le cinéma, puisque c'est des films tournés en 35 mm qui allaient dans les salles de cinéma. Donc, quelque part, moi, j'ai pas de nostalgie. J'ai aucune nostalgie, puisque après, je suis passé à des films publicitaires et j'ai fait des films traditionnels, ce que je voulais faire, voilà. Donc, pour moi, c'était un... Moi, j'ai fait ces films-là pour montrer et puis pour apprendre ce métier-là. J'ai eu la chance d'avoir des mecs géniaux, deux chefs opérateurs. J'ai travaillé avec deux chefs opérateurs différents, c'est tout. Mais des mecs géniaux qui ont transmis... Le premier film que j'ai fait, ils ne se sont pas dit, tiens, celui-là, on va se foutre un peu de sa gueule, il n'y connaît rien. Pas du tout. Et en plus, ils me suivaient. Moi, je demandais des trucs et ils me suivaient parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on risquait au fond, techniquement, tu vois, je veux dire, techniquement. Alors, il n'y a pas de combo, hein. Il n'y a pas de combo, c'est-à-dire que... Il n'y avait pas de contrôle.
Fallait dérocher, quoi. Voilà, c'est un plaisir aussi. Voilà.
Après, et après, après, on dérochait. Et attends, pour que ça revienne moins cher, parce que on avait des budgets, nous. Moi, mes budgets, et encore, j'étais dans les gros, j'étais en francs, 350 000 francs. C'est-à-dire, disons, allez, 55 000, 60 000 euros. Hein, d'accord, de l'époque. Un budget de film traditionnel moyen, à l'époque, c'était 1 million d'euros. Mmh. Ouais, c'était 1 million d'euros, tu vois la différence. Mmh. Et tu avais des budgets de 2, 3 millions d'euros. C'était des gros budgets, ça fait 10, 15, 20 millions de francs. Donc, moi, on était, tout était, je vais dire, la pellicule. Nous, moi, j'avais 7, 8 000 mètres de pellicule, pendant que sur un film traditionnel, ils avaient 30, 35 000 mètres, 50 000 mètres, 100 000 mètres pour les gros films. Donc, tout était comme ça. Et ces problèmes financiers, c'était mieux, on les résolvait par une imagination créative. Et ça, c'était magnifique, tu vois. Et grâce à l'équipe avec qui j'étais, qui fonctionnait. Et les roches, tu parlais des roches du dérochage, pour que ça revienne moins cher, on les a tirées en noir et blanc, les roches, alors que le négatif était couleur. Hein. Et moi, je découvrais mon film en couleur à la copie zéro. C'est-à-dire, je montais mon film avec des roches noires et blancs. On faisait tout le son, la musique, les bruitages, la post-synchro, puisque je tournais à l'italienne, c'est-à-dire en muet, sans le son, avec des dialogues évidemment, mais il n'y avait pas de son, puisque moi je venais du doublage, donc je refaisais tout. Et on mixait, dans les grands audis et tout, je mixais très souvent à Éclair avec Lucien Yvonnet qui avait mixé les premiers Lelouch, et je découvrais mon film à la copie zéro avec l'étalonneur du laboratoire.
Et tu n'as jamais eu de mauvaise surprise ?
Jamais, jamais, jamais. Et même l'étalonneur me disait, dis donc, parce qu'attends, il y a encore autre chose. Nous, on se branchait, pour la lumière, on se branchait au compteur. C'est-à-dire un compteur d'appartement, c'est 15 kilos de lumière, 18 kilos. Et il n'était pas question d'avoir des groupes comme ils ont. Et sur un film traditionnel, ils avaient 80, 100 kilos de lumière, 150 kilos de lumière, tu vois. Mmh. Nous, on a travaillé comme ça. Et on est, en tout cas, avec mon équipe, parce que c'est avec mon équipe, on est arrivé à faire des petits bijoux, quoi, des petits diamants. Certains films sont vraiment, quand tu les revois maintenant, au niveau technique, bon, après on parlera des scénarios aussi, parce qu'on travaillait aussi les scénarios. Parce que j'avais eu quand j'étais monteur, moi j'ai démarré dans le montage son et après le montage image. Je suis assez éclectique puisque j'ai bossé, je suis passé de d'Abel Gans à Frédéric Lansac, à Belgange, j'étais assistant monteur son sur son Napoléon, entre autres, mais j'ai monté Le Sexe qui parle.
Oh, bravo, tu crois avoir gagné? Ah, mon vrai, ce n'est que le début. Tu vas voir comme on va bien rigoler tous les deux.
Écoutez Gérard Kikoine au micro de Culture Prohibée.
Moi je démarre en 64 et en 70 mon père arrête. Donc j'ai pris moi en 70, j'avais 24 ans, hop je me suis mis à mon compte, on a partagé le matos avec mon frère, pas de problème. Mais j'avais gardé les contacts avec des comédiens de doublage qui étaient... on s'éclatait. Et Claude me dit, donc tu vas... Parce que j'ai fait un premier film en 74, après avoir travaillé sur les jets franco. Je sais pas si j'ai travaillé sur les jets franco, le son. J'ai dit, entre autres, j'ai dit, et puis j'ai monté à des Alain Payet aussi. J'ai dit, mais on va en faire un avec des potes. On a fait L'amour à la bouche en 74. Un petit budget de 500 000 francs. On a eu l'argent par un patron de laboratoire pharmaceutique... il y avait 10 ans de plus que nous, et qui s'est amusé. On a monté une boîte et tout ça s'est fait de façon traditionnelle, la Persane Production. Et donc après, on tourne ce film-là, L'amour à la bouche, qui est une histoire de mannequin, et ainsi de suite, on a mis nos délires. Et si tu veux, à la sortie, le film marche, mais bon, pas... Et donc je reprends le montage, et c'est là où Claude Mulot vient me voir, me dit, mais dis donc, j'ai vu ton film tourné muet, à l'italienne, c'est-à-dire... même pas de son témoin, tout le son est refait. Je me suis éclaté. J'étais, ce qu'on pourrait dire un peu prétentieusement, sound designer. J'étais devenu un sound designer qui choisissait les musiques, les effets. Je m'éclatais avec les effets extérieurs à l'image. Parce que le son, tu peux faire parler une image différemment en fonction du son que tu mets. Hein. Faut pas rêver, c'est génial pour ça. Et si tu veux, donc le sexe qui parle, poum, aux roches, des sexes, des queues de 3 mètres de long, des minous, et voilà. Et donc du coup, je suis rentré dans ce métier-là. Pendant 2 ans, j'ai monté les shopping, les hôtesses du sexe, mes nuits avec, la grande baise, ainsi de suite. Et après, je me suis dit, je vais en faire un. Et c'est partie fine en 77. Le seul problème, c'est que à part mon film en 74, j'ai eu une caméra, je connaissais aucun des comédiens Harder, puisque je les connaissais au montage, mais comme on les doublait, par exemple Martine Messager, la femme de Claude, doublait Brigitte Lahaye, ainsi de suite, tu vois. Alban était doublé par Philippe Auguste, qui était mon pote. Mais ils étaient payés, hein, il n'y avait pas de souci. Mais... Donc, je me suis retrouvé voilà, à faire ce premier film et qui est devenu un film, entre guillemets, culte, quoi. Le Partie fine, Indécence 1930, tourné, je me suis... Pour un premier film, avec un budget de 350 000 francs, mais tu peux même pas savoir, j'ai tourné en 1930, ambiance 1930, ça a beau être deux huis clos, c'est quand même assez costaud. Je me suis pas payé, c'était vraiment... une schizophrénie incroyable, parce que... Mais j'y suis arrivé.
D'ailleurs, dans le livre, tu expliques bien qu'il y a une... Aussi, tu accordes une importance très, très, très importante, justement, au décor, à tout ce travail-là.
Ouais. À la direction artistique, ouais. Ça, je l'ai appris. La direction artistique d'un film, ça passe par l'image, par la lumière, par les costumes, par les décors. C'est un assemblage qu'il faut, parce que c'est pas obligatoirement sophistiqué, tout doit pas être sophistiqué, tu peux avoir des lumières un peu glauques suivant le truc. Et ça, je l'ai appris sur mon premier film, parce que j'avais comme associé un photographe qui était co-réalisateur avec moi, et c'est lui où j'ai compris avec lui qu'il fallait, sur la direction artistique d'un film, fallait être intransigeant. Et ce qui fait, entre autres, hein, c'est une des parties d'un film, mais ce qui fait que tu adaptes cette direction artistique, que ce soit lumière, costume, musique, effets, sons, les sons, la qualité même des sons, tout ça, il faut rechercher, font qu'à la sortie, adapter à ton scénario, à l'histoire de ton film, c'est hyper important, tu vois. Moi, maintenant, je vois des trucs... je veux pas critiquer, mais je vois des téléfilms et je me dis, mais les mecs, ils sont... C'est une onde, quoi. C'est plat. J'en ai vu un l'autre jour, un film qui a 2-3 ans, un téléfilm. Mais c'était plat, c'était grisâtre, la lumière, il n'y avait rien, c'était que dalle. Tu te dis, mais... Alors que nous, on tournait, attends, 7 jours. 7 jours, j'ai les plans de travail. Dans le Kiko Book, il y a ce qui est formidable. En dehors des photos, si tu veux, il y a aussi... des plans de travail, des pages de scénario à noter, des extraits de découpage, il n'y a pas que des images où on voit les hardeurs, tu vois, on voit aussi la technique, on le sent, c'est formidable. Et tout ça fait que j'ai avancé comme ça, et le premier film ayant marché, la partie fine, il a fait près de 200 000 entrées. Donc les distributeurs étaient ravis. Et après, je me suis associé avec un vendeur étranger. J'ai quitté mes partenaires parce qu'eux, ils faisaient de l'audiovisuel, pub, machin et tout. Et les films X, ça les... À l'époque, on ne parlait pas de films X, on parlait de films de cul, de films porno. Donc je me suis associé avec le vendeur étranger que je voyais en projection, qui s'est occupé du sexe qui parle, de mes nuits avec, et qui connaissait le monde entier. Radley Metzger, il m'a fait rencontrer Radley... Ben, on vendait le Japon, on vendait près de 30 pays parce qu'on faisait aussi des versions soft. Donc, tout ça en 7 jours, hein, pendant que sur un film traditionnel, au minimum, c'était 28-30 jours. Tu vois, même après, j'ai fait un Commissaire Moulin, c'était 4 semaines de tournage, c'était 20 jours de tournage. Nous, c'est en 7 jours. Il y a un plan de travail, dans le Picobook, on travaillait, on était des pros. De toute façon, par rapport au centre du cinéma, il fallait qu'il y ait une production, il fallait qu'il y ait 10% du budget du film, et on avait besoin, comme pour les films traditionnels, de 7 cartes professionnelles. Carte de réalisateur, carte de chef-op, carte monteur, et ainsi de suite. Sinon, ton film, il passait pas la rampe, il passait pas la censure. Mmh. Voilà. Donc c'était en plus fait comme des films professionnels, ou sur un plan production. Donc là aussi, moi je vous raconte, je vous affranchis, dans le Kikobook, comme je dis, je vous affranchis à quoi ressemblait la production et la réalisation de ces films-là. Mais la production aussi, bien sûr.
Mais il y a une partie importante du Kikobook, d'ailleurs, tu t'en parlais à l'instant, qui est consacrée à l'art du découpage. Est-ce que toi, tu penses que c'est ta science du découpage qui a fait quand même la différence avec pas mal du restant de la production, quand même, hein?
Bah, le découpage, si tu veux, c'est quand même... Le découpage, c'est ce qui sera vu... Alors, où je vais réaliser ça aussi, c'est mon premier film, je reviens à l'amour à la bouche. J'avais une script... qui était la script de Jean-Yann. Je ne sais pas comment je l'ai eue, mais elle était venue nous voir, on lui plaisait, puis ça lui faisait des heures, tu sais, je vais dire, il fallait 507 heures, machin et tout. Et le premier jour de tournage de L'amour à la bouche en 1974, nous, les trois réalisateurs qu'on était, le chef-op nous dit, bon, ben, où on met la caméra? On n'avait pas découpé, nous, on ne sait pas où on mettait la caméra. Et là, la script est venue me voir, comme j'étais le seul du cinéma, puisque mes associés, il y en a qui étaient photographes et l'autre qui était, enfin, ils étaient dans l'audiovisuel, me dit Gérard, faut que tu découpes. Donc non seulement après, on a tourné dans la journée et le soir, j'ai commencé à apprendre comme ça, à découper. Et après, il y en a un qui m'a fait éclore, c'était mieux, c'est Claude Mulot, parce que le sexe qui parle, quand je l'ai monté, je recevais les feuilles de script et son découpage. Et lui, il découpait. Et moi, le découpage, c'est ce qui sera vu, ce qui sera entendu, c'est le déplacement, le positionnement des comédiens, c'est la caméra où tu places ta caméra avec des objectifs. Moi, je mettais parfois le 18, le 35, je veux dire, et la durée du plan. C'est très, très important. Ce qui me permettait, moi, de tourner beaucoup de plans, comme j'étais monteur, et d'avoir, c'est ça qu'il faut aussi, la richesse de ces films-là, et d'avoir des axes intéressants, travailler et pas comme par exemple en vidéo, allez hop, on arrive, allez, zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Non, moi je savais avec le montage, les plongées, les contre-plongées, les caméras au sol, dans Bourgeoisie pute, écrit sous le titre Twins, caméra au sol, des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est Claude qui m'avait dit, mais de toute façon, vas-y, un film, ça va. Pourquoi, à partir du moment où tu as une caméra, une équipe technique qui tient debout et de la péloche, pourquoi faire de la merde? Pourquoi faire de la daube?
Puis je devins la bonne du baron et de la baronne. C'était en 1930. Il y avait monsieur, Pierre de son petit nom. Le service de monsieur était limité, mais parfois délicat. Oh.
Écoutez le réalisateur de films d'amour, Gérard Kikoïn, au micro de Culture Prohibée.
En tant que monteur, ça me permettait, si tu veux, de... c'est vrai que le découpage, je l'avais dans ma tête. Et puis ce qui est génial, c'est que quand tu as découpé un film, par exemple, et tu vois les plans que tu as écrits, c'est une stratégie visuelle, un découpage. C'est une stratégie, je te dis, qui détermine la place de la caméra, l'angle et tout. Et quand tu vois le plan que tu as écrit, qui dit, tac, elle fait ça, ça et ça, et que tu le vois après au roche, mais c'est un pied énorme. C'est un pied énorme, c'est un pied. Et je veux dire par là, et je vais finir sur le découpage, 80% dans mes films, les films d'amour, hein, je parle pour l'instant, 80% des plans sont écrits, parce qu'il y a 20%, on a été obligé, vu le climat, le temps, manque de soleil en extérieur, ou parce que tout d'un coup on avait pris du retard, ou parce qu'il y avait ci, il y avait ça, d'improviser léger, mais 80% des plans, même dans les scènes hard, et d'ailleurs c'est dans le bouquin, dans le Kikobook, il y a un découpage d'un bourgeois et pute, la scène de la fellation, je dis qu'en premier plan, il y aura, parce que j'aime beaucoup les amorces, il y aura l'amorce du fauteuil néon, derrière la fellation, et au fond une cible, Il y a une cible néon rouge. J'avais décoré l'appartement avec des néons. Je donnais la plongée sur Cathy Ménard. Avec ses yeux bleus, donc je voulais qu'elle regarde la caméra avec ses yeux bleus et pendant qu'elle faisait sa fellation. Je veux dire, même pendant les scènes hard, je les avais écrits. C'est écrit. Et c'est dans le Kikobook.
D'ailleurs, tu parles de ce que contient le Kikobook. Il contient une préface qui est signée par Philippe Coedel. Est-ce que tu peux nous présenter ce loustique?
Oui. Alors, Philippe Coedel, qui après a écrit aussi... l'objet du délit, parce que je vais te le présenter en deux mots, il sera ravi d'ailleurs, parce que Philippe, c'est un type que j'ai rencontré il y a quelques années, tout à fait par hasard, et c'est, alors c'est Deleuze, c'est Kant, enfin c'est, il a dans sa tête les philosophes, mais son, un de ces philosophes qui tient, c'est Deleuze. Il a lu tout Deleuze, d'ailleurs il m'avait offert... l'abécédaire de Deleuze qui existe, qui est génial, je vous le recommande en DVD, c'est génial, c'est 3 DVD, A, B, C, D, t'as Deleuze, il l'a fait, il a dit, ce sera édité après ma mort, et c'est génial. A, c'est animaux, B. Et Philippe, c'est donc un mec qui bosse, il est dans l'enseignement, le classique, il est dans l'enseignement, voilà. Mais c'est un fou de cinéma. Chez lui, on a fait des projections, des kiffs, on a fait des K-I-F-F. Et pendant qu'il y avait le pif, on faisait le kiff, le Kiko, film festival. Et il a découvert mes films aussi, parce qu'il ne connaissait pas trop, et il a adoré, donc voilà. Et donc, il a découvert mes films, hard, et là, il était sur le cul. Et du coup, il a fait la préface, et aussi, il a fait l'objet du délit. Voilà. C'est un fou de cinéma, il connaît le cinéma, mais tout le samedi avec ses mômes, il a deux garçons chez lui, il se projette au moins deux films, peu importe, de toute époque, de japonais, russe, français, américain, des années 40, des années 70, de tout. Et moi, il a découvert mon cinéma, comme il me dit, t'as un cinéma incroyable, parce que c'est un film de genre, mais j'ai des genres différents aussi à l'intérieur, enfin bref. Il est, Philippe Coedel, c'est un ovni, ce mec-là, c'est un ovni, parce que c'est pas du tout son truc d'écrire, tu vois.
Non, parce qu'après, il y a aussi, il y a un copain à nous, en fait, ça nous a fait rigoler, hein, un copain de l'équipe.
Olivier Rossignol.
Voilà, Olivier Rossignol, on se demande, pourquoi tu as choisi Olivier Rossignol pour l'intro?
Alors, parce que Olivier Rossignol, moi je le connais, il m'avait abordé, je sais plus comment, il y a quelques années. Lui aussi, assez fan de mes films et tout. Et puis on a parlé. Et moi j'aime bien les mecs qui s'expriment. Et quand ils disent ah mais j'ai vu tes films, ils me parlent de mes films, mais pas simplement il y avait la mère machin qui suçait l'autre et ça. Bon, pourquoi pas. Mais tout d'un coup, il a senti que dans ces films-là, il y avait tu sais, on a tendance à penser que dans ce genre de films-là, on ne réfléchit pas. Or, je réfléchissais, et d'abord je réfléchissais une image, et c'était un miroir pour les spectateurs. Donc, et lui, il a capté tout ça, parce que c'est un costaud. Donc petit à petit, on s'est pris d'amitié, et puis il a une très belle écriture, surtout, il a une très belle écriture, je trouve. J'ai dit, tiens, il va faire le... Et en plus, il avait déjà travaillé pour l'éditeur. L'éditeur le connaissait, L'Œil. Les éditions de L'Œil connaissaient Olivier Rossignol. Donc ça tombait très très bien.
Et il y a aussi une partie du livre qui est très courte, qui m'a fait à la fois beaucoup rire, mais qui à la fois n'est pas que là pour la gaudriole. C'est ton éloge du poil, quelque part. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé cette envie d'écrire cette partie-là? Parce que c'est vrai, peut-être que tu veux aussi aborder la transformation aussi du cinéma porno d'aujourd'hui, quoi.
Ouais, aussi, oui, c'est une transition. Alors, pour le poil, je vais te raconter une anecdote. En 79, je tourne un film, je ne sais plus lequel, enfin, peu importe, le titre, et il y a Mika, qui est une comédienne hardeuse, qui était formidable. Je la faisais tout le temps rire, elle, parce que je la faisais doubler par une comédienne de doublage qui avait un rire formidable. Mais elle me dit toujours, mais tu me fais toujours rire, pourquoi? Elle est dans La Chaleur de Saint-Tropez, elle est dans pratiquement tous mes films. Bon, bref.
Et je vois qui
c'est. Premier jour de tournage, arrive Mika, et qu'est-ce qu'elle avait? le ticket de métro. C'est le
oui, oui, je vois.
Le ticket de métro. Et on était là, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Pour nous, ça nous semblait, on va pas pouvoir tourner avec. C'est-à-dire que ça nous semblait, mais une horreur. Et t'imagines, c'est en 79. Et du coup, bah, je l'ai fait prendre en levrette. Comme ça, je voyais pas son minou.
Alors, c'est énorme. Faut dire...
alors, bah oui. Et alors, il faut... alors, attends. Il faut dire une chose, c'est que moi, je ne voyais aucun film de mes confrères, qu'ils soient français, américains, à part les films que j'ai montés, de d'Alain Payet ou de Frédéric Lansac ou de Michel Barney, Didier Philippe Gérard. Je n'ai vu aucun film américain, machin et tout à l'époque. Donc peut-être que, alors parce que après, quand j'ai tourné à New York en 80 l'année suivante, là, pour Radley Metzger en coproduction, The Tale of Tiffany Lust en anglais, en français j'ai plus son nom, c'est ça va me revenir. Bref, là par contre, déjà aux États-Unis, ça. Ça, tu vois, ça, il y en avait quelques-unes qui étaient rasées déjà. Mmh. Et donc, bon, bah, là, j'ai compris. Bon, pas toutes, mais ça, c'était. Et si tu veux, moi, je trouve maintenant, par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est nous, on était des naturalistes. Les filles, elles arrivaient, si elles avaient la chatte, allez, hop, un peu en des. En broussaillé, la make-up, elle fait son travail, le maillot de bain et tout pour que ce soit là aussi, je dirais pas qu'une direction artistique, mais que ce soit bon, agréable à la vue, comme les boutons sur les fesses ou les trucs étaient maquillés, tu vois, c'était pas n'importe quoi. Bon, donc les mecs, ils étaient comme ils étaient. Moi, j'ai eu des rouquins, j'ai eu des bedonnants, j'ai eu des mecs pas trop mal. Alban était pas trop mal foutu, mais enfin, c'est pas. J'ai eu Guy Royer qui était. On était des naturalistes, des Rousseau. Maintenant, c'est carrément des hygiénistes. Ils sont les mecs, ils sont rasés de partout. Ils sont tablettes de chocolat. Les filles, elles sont rasées de partout. Moi, pour moi, c'est Gobineau. Enfin, c'est l'extrême droite, entre guillemets. Tu veux dire. C'est carrément. Ben oui, c'est hygiéniste. C'est allez hop, le corps, c'est le comment dirais-je, l'ode au corps, quoi. Non, faut arrêter. Je veux dire, c'est bah, bon. Font ce qu'ils veulent, je juge pas parce que c'est dans l'air du temps, ce qui est dans l'air du temps. C'est comme nous, les années 70, il y avait une espèce de, comment dirais-je, de folie, de liberté, de, tu vois, qui était un enthousiasme, une vitalité qui existait, qui était incroyable. On s'appropriait une liberté qu'on n'avait pas encore complètement, tu vois, je veux dire, on était... bon, maintenant, ils ont une entière liberté, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve pas ça très bandant. Les mecs, ils ont tous des manches de pioche, allez hop, les triples, allez, en triple pénétration, voilà. Et au niveau des scénarios, je voudrais pas dire, mais enfin, c'est quand même assez pauvre au niveau du scénario, c'est très très pauvre. Les scènes de cul durent des heures, c'est chiant, là, moi, je trouve ça... Chiant.
Il y a encore des mecs qui essayent de faire des trucs. Je pense à Jack Tyler, par exemple.
Oui, alors voilà, il y a Jack Tyler, il y a John Beirut qui essaye. Mais ils sont tellement, ils sont tellement tenus maintenant par les distributeurs qui veulent. Moi, tu vois, à l'époque, le distributeur, quand je fais partie fine, et quand je présente le scénar à Francis Mishkin, Alpha France, qui était prêt à mettre de l'argent pour la France et puis la langue française, il me dit, Gérard, le scénario est formidable, mais alors un aveugle, c'est pas bon, tu comprends. Bon, tu vois, c'était... Alors, je lui ai dit, et tant mieux, j'ai dit, bon, bah, il va voir un petit peu. Donc, je suis allé chez Lissac, et j'ai fait faire une paire de lunettes avec un œil bleu, avec un verre bleu et blanc. Tu vois, je veux dire, c'était dans des détails comme ça que les distributeurs ou les vendeurs étrangers nous demandait, tu vois, au niveau du montage ou des choses comme ça.
Attention, Aude, le texte. C'est bon, les grosses carottes. Vas-y.
C'est bon, les grosses carottes.
Vas-y, suce-le, mec.
Ouais. Vous écoutez Gérard Kikoïne, l'auteur du Kikobook, au micro de Culture Prohibée.
Quand j'ai fait des repérages pour le Kikobook, pour sortir des snapshots et des images de mes films, parce qu'il y en a, pas mal pour expliquer les choses et tout ça. J'ai vu un film, là aussi j'ai perdu le titre, près des 10 premières minutes, il n'y a pas une scène de cul. Mais il y a... bon, alors, après, on disait, tu sais, Gérard, faudrait quand même Parce que s'il n'y a pas une scène de cul au début, peut-être que le spectateur, puisqu'on est en cinéma, hein, il s'est trompé de salle, il pense peut-être que c'est un autre film. Donc du coup, j'ai cédé. Mais comment j'ai cédé? Alors j'ai cédé sur quoi j'ai cédé? Dans Choses adolescentes, allez hop, mais c'est une scène de l'aspirateur qui est devenue...
C'est culte.
Bah oui. Culte. Ah oui. Moi, c'est pas moi, mais on me le dit, disons, ta scène d'aspirateur, c'est génial, puis on s'en resserre. Dans la chaleur de Saint-Tropez, j'enterre Cathy Ménard.
Et tu l'oublies.
Oui, je l'oublie, ça c'est incroyable. Ça aussi, ça c'est des détails formidables. Enfin, formidables. On l'enterre, et il y a une photo de ces Pitoff, mon assistant, qui était Pitoff, qui quand même a réalisé Vidocq et Catwoman, qui était mon assistant, qui est un mec génial. On voit en photo noir et blanc le trou qu'il a creusé, les planches qu'il a mises. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais elle tourne comme l'exorciste, tu sais, on est enterré dans le sable, mais elle tourne. Bah, je dis, bah oui, c'est vrai. Et Cathy Ménard, on tourne cette scène-là. C'est le tout début du film, donc une fellation, Alban qui filme, machin et tout. Et on part tourner une scène 20 mètres, 30 mètres plus loin. C'était, on a tourné à Saint-Tropez à la Voile Rouge. Et il fallait qu'on déjeune tôt, parce qu'on avait là. Et au début du déjeuner, d'un coup, je dis, mais où est Cathy Ménard? Et elle était restée. Mais au lieu de gueuler, dire, non, elle l'avait fait pro. Elle disait, et puis elle avait pas un petit peu de coup de soleil. Mais... Et c'est la seule scène qu'elle a faite, car je lui avais dit à Cathy, tu descends à Saint-Tropez. T'as qu'à voir, attends, j'aurais pu... Tu descends à Saint-Tropez pour cette scène-là, qu'elle avait lue, qu'elle avait acceptée. Par contre, j'avais tourné au mois de juin à Saint-Tropez. Par contre, en septembre, en octobre, j'ai Bourgeoise et pute, j'ai Twins, tourné en octobre. D'ailleurs, le titre déposé au centre pour la censure, c'était Octobre à Paris. Et c'est Bourgeoise et pute, où elle a un très beau rôle dedans, puisque c'est ça aussi, tu vois, c'est une héroïne qui recèle, qui a une problématique particulière parce qu'elle veut venger sa sœur. Elle a une errance, et c'est cette errance qui correspond au cheminement, à la narration du scénario. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui. Bon, on en avait parlé la dernière fois.
C'est une gonzesse qui prend la place de sa sœur, c'était une pute, elle c'est une bourge, et je me fais mettre. Non, elle a dans sa tête, elle cherche à casser, puisque sa sœur s'est suicidée, donc elle va se venger en cassant les clients de sa sœur, mais en allant jusqu'au bout. Je veux dire, c'est ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ah, mais c'est presque un film fantastique pour moi. Moi, j'adore ce film, c'est un de mes préférés.
Pour jouer à des putes, ouais, c'est... Moi, j'adore, il est fait, la lumière, là aussi, est belle, il y a des plans. Mais, moi, je suis désolé, même si c'est moi qui s'est écrit, et en toute humilité... Il y a des plans, je trouve, mais magnifique caméra au sol, il y en a, j'en ai fait quelques-uns. Et dans le quand elle va voir le banquier, on a tourné ça à l'hôtel du TCA, t'imagines. Ça aussi, c'est les combinards, on en parle dans le bouquin, dans le Kekobook, les combinards, parce que c'était des combines, tourner au TCA des scènes hard, pas question, on leur a dit qu'on tournait un clip. Tu vois ce que je veux dire? Tourner dans le train. Dans Adorable Lola, la scène dans le train avec l'autosuceur, tu peux pas demander à la SNCF, on avait les deux compartiments, on avait mis Franck, qui est un pote, en faux contrôleur, qui joue le rôle du contrôleur, mais qui en même temps bloquait les gens qui auraient pu être trop curieux dans les trucs, mais il y avait des assistants à droite et à gauche qui venaient prévenir Franck que les vrais contrôleurs pouvaient arriver et tout le monde se rhabillait. Enfin, c'était... Et ça, on l'a tourné entre 8h du matin et midi. Paris-Angers-Angers-Paris. Mmh. Et après, on a tourné là aussi une autre combine. On a tourné dans la chambre qui est censée être une chambre aux États-Unis. C'est à l'hôtel, j'ai perdu. Comment il s'appelait l'hôtel? Qui était un hôtel 5 étoiles. On avait réservé une suite, tu vois. Là aussi, on racontait autre chose. Saint-Tropez, j'ai lu là un truc de... Un journal, on racontait qu'on faisait parce que pour tourner en extérieur, il faut des autorisations et tout ça, qu'on faisait un documentaire sur Saint-Tropez, par exemple. Les combines, tu vois, je dirais, et tout ça en équipe, on était une équipe de 10-12 personnes. On n'était pas, là aussi, film traditionnel, 30, 35, 40, non. On était 10-12, mais on montait au front, quoi. Quand on attaquait un film, on montait au front parce qu'on savait qu'il y allait y avoir des... Donc les poils, pour en revenir aux poils. Donc les poils, je reviens aux poils d'un coup, et ça s'appelle à poil parce que ça a un charme fou. Moi, je trouve, personnellement, après, effectivement, j'ai une anecdote. En face de chez moi, il y a 2-3 ans, il y a un couple, 35. Ah, il dit, il paraît que c'est toi qui es Georgie Queen, est-ce que j'évite de trop loin. Oh, je refile un DVD, comme ça et tout, je les revois une semaine après, j'y alors. Alors lui, il est emballé, et elle m'a fait, mais c'est dégueulasse. Je dis, quoi, c'est dégueulasse? Je savais bien que c'était un film hard. Elle me dit, non, les poils. C'est-à-dire qu'elle avait 30, 32 ans, elle trouvait que les poils, c'était dégueulasse. Alors j'ai essayé d'argumenter, et à la fin, j'étais bien obligé de lui dire, mais tu sais, ta mère, elle a ses poils. Donc le poil n'est pas sale, c'est dingue, hein, c'est devenu... Mais on y revient un petit peu, je crois, aux poils. J'ai l'impression.
C'est vrai. En même temps, c'est une belle métaphore sur l'état de nos sociétés et puis sur ce qui a été perdu peut-être depuis les années 70 dans la société.
Bah oui. Notre société, on rase tout le monde. Allez, on rase gratis. On vous rase. En plus, moi, je vais te dire, bon, bah, ça, c'est une anecdote. Quand j'ai eu 18 ans, 18 ans, j'ai une copine qui est tombée enceinte. À l'époque, il n'y avait pas la pilule, machin et tout. Ah, c'est le bordel, hein, pour. Et elle m'est revenue, entre guillemets, on s'est retrouvés, puisqu'on était amoureux et tout, elle est partie en une clinique, c'est qui risquait la prison et tout à l'époque, hein, l'avortement, qui risquait la tour et tout, elle est revenue rasée, c'est vrai, elle avait une pépette, et donc moi, une femme qui est rasée, ça me fait toujours penser à une pépette, quoi, ça me fait penser à ça, c'était un truc qui était, après, ses poils ont poussé, mais sur le moment, elle est complètement rasée, c'était incroyable pour moi, ça me semblait... Donc, quelque part, les femmes rasées, moi, me font penser à un truc qui est pas clair, quoi. Voilà. Maintenant, ils font comme ils veulent. Maintenant, c'est les mecs qui se rasent. Alors là, faut qu'ils m'expliquent.
C'est pour jouer sur la taille.
Oui, peut-être.
Je vois pas d'autre explication.
Oui, il n'y a pas d'autre explication, je vois pas.
Pas bon.
Mais
il y a Thomas qui est avec moi en studio qui va te dire un truc,
oui. Vas-y.
L'absence de contrôle durant le tournage, justement, il fallait vérifier le poil. Bah, le poil sur l'objectif qui s'était...
Ah, le poil... Ah bah oui, mais il y avait le poil sur l'objectif. Il y avait la petite poire magique. Hop. Et c'est vrai que ça pouvait arriver. La poussière ou le poil, l'assistant caméra avait sa petite poire. Hop. Et le poil giclait.
C'est le cas de le dire.
Maintenant, dans Le Sexe qui parle, je vais vous livrer un petit secret de fabrication. Il y a des subjectifs sexe, et on a à l'intérieur du sexe qui parle, du vagin, et puis donc on voit c'est les lèvres et puis des petits poiluches. Et en fait, les poils, c'était les cheveux, ce sont les cheveux de Didier Philippe Gérard, Michel Darny, que la maquilleuse avait coupé et avait collé comme ça, pour le subjectif vagin.
Ben ça fonctionne. ça fonctionne.
Et c'était deux blocs de mousse, voilà. Donc les poils, c'était pas un problème, c'était vraiment pas un problème. Ça faisait partie de l'intégrité des femmes ou des mecs, quoi. Je veux dire, voilà. Et je te dis, en plus, nous les mecs, on avait des bedonnants, on avait tout. Hein. Il y avait des chauves, il y avait tout. Mais fallait les mettre, c'est vrai qu'on écrivait des scénarios aussi en fonction du look du comédien hardeur ou de la hardeuse, tu vois, mais surtout des comédiens des hardeurs. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils faisaient plus pompistes que président directeur général, tu vois. C'est évident. Bon, bah, c'est comme ça, non, mais comme, voilà. Il y en a qui était passe-partout, c'était Alban. Alban, il était passe-partout. Je l'ai mis en voyou, mais classieux dans Partie fine. Il est dans Choses adolescentes, il est architecte. C'est avec le... Voilà, Alban, tu pouvais le mettre partout.
Mais, après, justement, tu parles d'Alban. Il y a aussi toute une partie de l'ouvrage. Et ça, je trouve ça super, parce qu'on parle toujours de toi. On vante ta mise en scène, fort juste. Mais toi, t'oublies pas que derrière ta mise en scène, il y a aussi des comédiens, des actrices, des acteurs, des assistants, tout ça. Et tu leur rends hommage. Et ça, j'aime bien dans le bouquin.
Ouais. Mais oui, parce que... Alors, bon, il y a deux thèmes. C'est un bouquin à thème, hein. C'est un bouquin à thème pour tes auditeurs. On va leur parler. Il y a l'expression visuelle, les cadres, parce que les cadres aussi, c'est important. Moi, je voulais prendre les spectateurs par la paupière, tu vois. Je voulais les hypnotiser. C'était ça qui était par des subjectifs. Quand t'es sur un subjectif, le mec fallait qu'il ait l'impression qu'il soit seul dans la salle. Enfin, c'est des choses comme ça. Il y a la bonne auberge, il y a l'objet du délit, il y a les égéries. Alors les égéries et les mousquetaires, par exemple. Les mousquetaires, bon, bah, c'est Alban, c'est les Harbeurs, c'est des mecs qui étaient formidables parce que ils venaient, ils faisaient leur boulot, mais ils le faisaient. Il n'y avait pas de brutalité, il n'y avait pas de. C'était avec les filles. On rigolait, attends, il y avait une ambiance sur les tournages. Il y a certaines photos dans le Kiko Book, puis il y a des photos de plateau. Il y a quand même près de 150 photos de plateau, c'est vraiment de plateau, où
c'est
on rigolait.
Fête. C'est la fête.
Ouais, bien sûr, on faisait. Puisqu'il n'y avait pas de son, par exemple, puisque j'avais pas de son, le son je le faisais après. Par exemple, Alban, on lui disait quand il était en train de limer, vulgairement, on lui disait allez, vas-y Alban, au lieu de lui dire vas-y, défonce là, t'es dans le galibier, on essayait de trouver des métaphores, tu vois, elle était dans le galibier, vas-y, comme les filles, on leur disait pas allez, écarte les cuisses, non, c'était mets-toi plein phare. Il y avait comme ça des expressions plus ou moins bon on évitait d'être trop entre guillemets vulgose, tu vois, dans le truc.
Dis donc, Tonton, il s'en met une sous la dent.
Et pourquoi pas?
Mais il fait ça en ta présence.
Et après? Moi je m'y retrouve.
Mais tu peux m'expliquer ce que ça veut dire?
Je vais te le montrer tout de suite.
Vous écoutez Gérard Kikoïn au micro de Culture Prohibée.
Quand j'arrivais le matin, ça s'installait où était déjà installé le maquillage. Ça se passe au maquillage le matin. Parce que les hardeurs, les hardeuses arrivent, elles ont eu ci, elles ont eu ça, elles sont engueulées avec leur mec, parce qu'ils ont leur vie aussi, machin, tout le monde a sa vie. Donc, et puis, il m'est arrivé je le dis dans le bouquin, d'une jeune femme, d'une fille qui me dit « Ah non, moi je tourne pas avec lui ». Alors c'est une américaine, et lui, c'est un nain noir.
Eh oui. Jolion Coucou.
donc je donne le nom d'ailleurs, parce qu'après, et elle me dit ah non, moi je tourne pas avec lui, hein, je fais pas ça. Je dis pourquoi? Parce qu'il est nain. Elle fait non, parce qu'il est noir. c'est des trucs. Elle m'avait bien fait chier, celle qui fait des bubblegum sans arrêt, mais bon. Après, on s'en est servi, c'est bubblegum de fume-gum. Voilà, il y avait les mousquetaires, les égéries, c'est important. Et puis l'équipe, c'est vrai que l'équipe, moi j'ai un grand respect pour l'équipe parce qu'ils se sont défoncés, hein. Parce qu'ils se défonçaient, parce qu'on travaillait pas. C'était pas 8 heures par jour, hein, c'était 12 heures minimum, hein, par jour. Mmh. Ouais, je veux dire. Mais il y avait un engouement, il y avait un enthousiasme. Alors évidemment, fallait que je le provoque. Je me mets un peu en avant, mais c'est vrai que si un réalisateur il arrive, il fait la gueule, ou il gueule sans arrêt. Moi je gueulais pas. Jamais j'ai levé la voix. Quand je voulais quelque chose, que je savais que ça allait être difficile, je le faisais, je mettais de l'humour dedans. Et à ce moment-là, on me regardait, on comprenait. Mais tu vois, sur un film traditionnel, j'avais un décorateur génial, Leonardo, un Italien, sur des décors très compliqués. Tout d'un coup, j'arrivais le matin, j'ai dit « Non, Leonardo, là, on ne pourrait pas voir ça. » Mais tu vois, parce que... Alors, il me regardait, il me fait « Suddenly ?» C'est genre, ça te prend comme ça. Voilà, c'était... Et sur les tournages hard, c'était la même chose. On essayait, c'était pas les vas-y, défonce là, ou... Non, c'était toujours avec élégance. On essayait d'être élégant, et l'équipe technique suivait derrière, aussi, doubleur lumière, on regarde, il y a les photos de Pitoff en doubleur lumière dans les escaliers de la prod. On a tourné dans les escaliers de ma prod aussi, Rodincol, imagine. Et il se défonçait. J'avais un chef électro, et ça, je tiens à lui rendre, Étienne Jourdan. J'en ai eu deux. C'est simple, je doublais les équipes parce qu'au cas où il y en a un qui ne soit pas libre. Étienne Jourdan, c'est un mec que j'avais sur l'amour à la bouche. Il m'a fait chef électro, chef machinot, et c'est un type qui avait construit un hélicoptère. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, on l'appelait Mister Magic. Tout, on pouvait tout lui demander. Un jour, tu pouvais lui demander ce que tu voulais, il savait faire. C'était Mister Magic, voilà. Il à Vincennes, il avait surélevé sa maison sur des airains. Enfin, tu vois, c'est un mec, c'est... Et il a construit un hélicoptère, hein. Il s'est fait prendre par les flics, parce que, enfin, bref. Et ça s'est arrangé. Parce que sa sœur était au ministère de la guerre, elle avait sorti les plans, il avait racheté des pièces détachées dans les gendarmeries, dans les trucs, il avait limé les trucs. Il a mis 3-4 ans à le faire. Mais il a volé son hélicoptère. Et ce qu'on a un jour, il est monté en hauteur, tu vois, il montait, il descendait de son jardin, mais un jour, il s'est retrouvé dans les radars d'Orly. Donc, attends, le mec, c'est Étienne Jourdan, bon, il est décédé maintenant, mais c'est un grand, tu vois, c'est un grand. Le mec, il était chef électro, mais c'était d'une rapidité, de tout, d'une gentillesse, il se marrait tout le temps, il se marrait, quoi. Voilà, mon chef-op à l'époque, c'est des conneries que je te raconte, mais Jean-Jacques Renon, bon, il était un peu dans le tutu, mais ça, on le sait, tout le monde le savait. Et c'était un génie de la lumière, mais il pouvait plus travailler dans les films traditionnels parce qu'il picolait. Mmh. Alors, tout d'un coup, Sodo, tiens, on va faire la Sodo, parce que l'entrée des artistes, machin et tout, la Sodo. Et qu'est-ce que je vois arriver, mon chef-op, sur le plateau, avec un Sodo, un vrai Sodo. Je dis, tu fous. Il me dit, bah, tu m'as dit la Sodo. Oh, j'ai bon, les gens, j'arrive, hop. Voilà. Parce que aussi, l'entrée des artistes, c'est-à-dire les sodomies, il faut dire que les trois quarts des filles ne le faisaient pas. Il y avait, on prenait des doublures qui venaient en général en fin de journée, qui enfilaient les fringues Alors il y avait un couple, il y en avait une, elle était maligne, elle disait « Ah non, moi je me fais sodomiser que par mon mari ». C'était pour les gros plans raccords, voilà. Donc ils enfilaient, le pantalon d'Alban, ou peu importe, ou d'un autre, et elle, les bas, ou les trucs de Wojtyla, machin et tout, et hop, on faisait les gros plans. Les bijoux aussi, ils prenaient la montre, les bijoux. Ça, c'était à part. Voilà. Parce que pratiquement, il y avait très très peu de filles qui jouaient la sodomie. L'entrée des artistes, comme on dit. L'entrée des artistes. Ah bon. C'est dans le Kikobook aussi.
Mais oui, tout est dans le Kikobook. Est-ce que le Kikobook est conforme à ce que tu attendais? Ou encore mieux? Et est-ce que justement, quand tu t'es replongé là-dedans pour faire le livre, ça ne te donne pas envie de refaire un film? Voilà,
le Kikobook, il y a eu un travail. Parce qu'il y avait eu une première version donc, faite par mon épouse et moi-même. Mais l'éditeur a tout mis de côté et a repris, en gardant les thèmes. Il n'y avait que les thèmes qu'on a gardés. Les thèmes étaient là. Il a repris ma jeunesse, mes influences, parce que aussi j'ai eu des influences. Hein. Attends, mes influences, on n'en parle pas, mais entre Orson Welles, Murnau, l'expressionnisme allemand, après Duel et ainsi de suite, j'en ai reçu des influences. Et si tu veux, donc le Kikobook, il est, pour moi, il est vraiment, c'est un livre, je veux pas avoir l'air comme ça, mais c'est un livre de référence sur cette époque-là, sur ces films de cette époque-là. C'est vraiment un livre de référence. On a tout mis. On a tout mis. Il m'a tout mis. J'ai mis tout et avec Didier Philippe Gérard, toute la partie art, on l'a fait à deux parce que c'était tellement dense. Autant moi, tout le début de ma carrière jusqu'au art, je l'ai fait seul, mais après il fallait être deux parce que il y avait trop de choses, trop de. Fallait se souvenir. Moi, c'est à 35 ans. Hein. Près de 40 ans, même le premier c'est 77, l'année prochaine ça fera 40 ans. Et le bouquin, il est vraiment comme vraiment, j'ai rien à dire, c'est vraiment vraiment, c'est pour moi, ça peut devenir un livre de référence, et il est très agréable et à regarder et à lire, parce qu'il n'y a pas des textes de 3 km. Tiens, t'es d'accord, non, je pense.
Pour moi c'est plus un livre qui se regarde, d'ailleurs, à la limite qu'il ne le se lit.
Qui se regarde, oui, absolument. Qui se regarde. Bon, on donne quelques le backstage, on donne quand même quelques enfin même pas quelques, on donne des secrets de fabrication. On va le mec qui tombe dedans, c'est il va devenir un initié, parce que dedans il y a la technique, il y a de la provocation, il y a de la sexualité, il y a tout ça, il y a de la folie, il y a du délire, enfin il y a des machins. Donc vraiment, moi, le bouquin, il est mieux sera insoutenable, quoi. Et par contre, alors, faire un film, oui, si je fais un film, ce sera un road movie. Ouais. C'est Thelma et Louise, mais ce sera un road movie. Pour tout, pour l'organisation, pour Voilà, dans une superbe voiture américaine, décapotable, énorme, un wagon, deux gonzesses, et elles partent, alors après l'histoire, ça voit. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute l'équipe suit derrière, avec, dans un car, avec le matos, avec tout, quoi, et qu'on puisse aussi, qu'on soit pas posé, quoi, que ce soit en mouvement. Ouais. Ce sera un film en mouvement. Voilà, ce sera un road movie.
Avis au producteur, alors.
Avis au producteur, ben voilà, exactement. Avis au producteur, mais moi je suis prêt. J'ai l'équipe en plus, ben, j'ai deux fils, j'ai une fille bon, qui est actrice.
Qu'on connaît,
ouais. Qui est actrice, et j'ai un fils qui commence à réaliser, fait des cours, il a des prix, il a une très belle écriture et tout ça. Il a des potes, il a 27 ans. Bon, il m'appelle la légende, bon d'accord. Mais ils sont tous les techniciens avec qui ils bossent, ils sont prêts à en faire un, hein, par exemple. Hein.
D'accord.
Ils ont un genre du son, machin, parce que lui, il a fait 3-4 cours, pas mal du tout d'ailleurs. Et donc, ses potes qui sont techniciens, enfin, pas tous, hein, mais certains, j'ai quand est-ce qu'on en fait un et tout, ils sont branchés cul parce que qui n'est pas. Tu vois, le cul se mêle de tout, même de ce qui ne le regarde pas. Voilà, ça c'est clair, hein, et c'est vrai. Le cul est partout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de même quand ça ne le regarde pas, il est là. Et donc, mais chez les jeunes, ils sont chauds, quoi. Ils sont chauds. Voilà.
Il y a personne. Viens, on y va.
Ouais. Regarde, il y a deux super nanas. Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez?
De l'argent.
Oh, vous n'êtes pas très romantique. Pourquoi toujours penser à l'argent? Allez, venez par ici qu'on vous cambriole.
Bah, on vous connaît pas.
C'est justement une bonne façon de faire connaissance.
Elle a raison. Dans ce cas-là, allons-y, perdons pas de temps.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la partie technique de The Last But Not The Least, Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.